Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le président de l'Association des maires de France et maire de Troyes, François Baroin.
Bonjour François Baroin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler entre autres de ce livre, Une histoire de France par les villes et les villages aux éditions Albin Michel. Vous êtes allé soigner les plaies de la présidentielle en vous plongeant dans l'histoire de nos communes, c'est ça ?
Oui, enfin c'est un travail sur 3 ans qui commençait depuis très longtemps, qui n'avait rien à voir, qui s'inscrit dans un contexte effectivement de réflexion sur notre identité, notre enracinement. C'est toute une série d'histoires. Au fond, c'est une anthologie, c'est un choix arbitraire, un peu subjectif. C'est ce qui m'a plu, qui m'a intéressé. Ouais. Donc il y a des histoires très connues sur Valmy, sur le procès.
Alors,
de
chaque
de
département a son histoire, donc il y a plus de 80 histoires. Il y en a effectivement qui sont archi connues. Et puis la plupart quand même, ce sera une découverte. C'était quoi votre critère de choix d'ailleurs ?
Il y a ce qui me plaisait. Voilà, c'est une anthologie, tout comme quand on travaille
subjectif.
C'est subjectif, c'est un parti pris. Le choix, effectivement, c'est une histoire par département. Raconter, au fond, comment notre pays s'est construit dans l'acquisition de la souveraineté, dans l'attachement à l'identité de l'appartenance à un bien commun. Tout souvent, d'ailleurs, autour de la géographie. L'histoire d'un pays est dans sa géographie. Et la géographie s'est organisée autour de la démographie, c'est les bassins de vie. D'ailleurs, l'appellation de la commune, c'est une fille de la Révolution. Ça s'est fait dans cette appellation autour des lieux-dits, des bourgs, des paroisses, des faubourgs. Et c'est dans ces bassins de population. Et les populations, elles sont construites souvent sur des lieux géographiques, il y avait une rivière.
Sur des lieux, mais à travers des figures. Il y a beaucoup de figures marquantes. Pourquoi Carcassonne s'appelle Carcassonne ? Ben c'est grâce à une sacrée bonne femme. Vous racontez l'histoire d'une empoisonneuse qui a décimé sa famille à Bézu-Bazon, dans le Gers, et qui sera décapitée. Il y a une baleine, la baleine de Luc-sur-Mer, faut lire. Ouais. Puis il y a le premier député.
À l'époque, il y avait des baleines, effectivement, dans la Manche.
À l'époque de Moby Dick. Le premier député ouvrier qui fait scandale en arrivant à l'Assemblée avec sa blouse bleue, il était d'où lui ?
Oui, bah lui, il était originaire de son pays et il avait participé.
Non, il avait participé.
Non, parce que j'étais encore sur la baleine parce que je réfléchissais à Honfleur et à Luc-sur-Mer en vous écoutant sur cette partie de la question de la baleine. Et j'étais sur Carcassonne parce qu'on en parlait juste avant de rentrer dans le studio et qui est une personnalité mythique, qui est en fait la deuxième Marianne et qui était voilée. Et Carcassonne, en fait, cette dame, elle avait jeté aux pieds des armées de Charlemagne à l'époque.
Un pourceau de
grains. Et ensuite, le premier était de l'Allier, à Commenterie.
Voilà, le premier député ouvrier de France, il est là-bas. Mais c'est marrant parce que vous racontez le combat pour le dimanche chômé à la Forge d'Infi.
Alors la Forge d'Infi, alors
et,
ça...
Et à l'époque, c'était la règle, le travail du dimanche, hein, comme quoi on n'apprend rien.
Oui, parce que la Révolution avait supprimé à l'époque, jusqu'en 1793, l'idée du jour chômé parce que c'était une valeur chrétienne. Napoléon avait bien voulu essayer de la remettre en place, l'avait remis en place, et puis à l'époque, il n'y avait pas de syndicats, parce que les syndicats, c'était à partir de 1880, et là, la Forge d'Infri, on est en 1855-65, et en fait, ils faisaient travailler les femmes et les enfants, et il y a eu 2 gamins. Il y en a un qui tombe sur un four de chaux, il a 10 ans, et quelques mois plus tard, il y en a un autre, il a 16 ans, et lui, il est écrasé par une roue. Et la révolution des ouvriers, cette révolte, elle s'est faite de manière tout à fait simple, ils sont mis en col blanc, ils sont bien habillés, c'était le dimanche.
En dimanché,
exactement. Et c'est ainsi que l'idée du dimanche ou d'un jour chômé s'est fait sur la base, dans un petit village en France, dans la Nièvre.
Le premier, on s'aperçoit dans votre livre que les premiers acquis sociaux, ça vient du local. Parce qu'il y a aussi
tout
les premiers congés payés à Millau. Ça vient de la base.
L'idée des congés payés, tout vient. En fait, c'est souvent l'initiative d'un ouvrier, d'un chef d'entreprise, d'une mobilisation, d'une réflexion collective. C'est souvent en révolte par rapport au haut. Il y a des histoires très connues. La bête du Gévaudan, tout le monde connaît la bête du Gévaudan. Mais personne ne sait véritablement qu'il y a eu un échec à tous les niveaux de strate de hiérarchie. C'est allé jusqu'à Louis XV, qui a envoyé son meilleur louvetier. Pour tuer la bête, pour retrouver. Il y a des bêtes qui ont été tuées, mais ça n'a jamais été la bête du Gévaudan. Il y a 100 de personnes qui sont mortes. Il y a une part de mythologie, évidemment, parce que il y a aussi la création de symboles autour de ces histoires. Mmh. Il y a la part de vrai. Dame Carcasse, il y a une part de vrai, puis il y a une part de mythologie. La bête du Gévaudan, il y a une part de vrai, il y a une part de mythologie. Et à la fin, c'est un local qui était presque supérieur à tous ces chefs louvetiers ou maîtres arquebusiers envoyés par l'État centralisé pour éviter que la population ne s'effraie. Et c'est comme ça que petit à petit l'histoire de France est construite.
De très belles histoires, comme on dit.
Il y en a sur l'outre-mer aussi.
Vous en avez rapporté.
Oui, notamment ce choix français qui a été de sauver une partie des gens qui avaient soutenu la partie française au Vietnam et ils étaient menacés de pogrom et d'éradication. C'était des Hmongs et on a fait le plus grand pont aérien de toute l'histoire pour les installer en Guyane. Et on a emmené ces gens de montagne en Guyane en se disant ils vont réussir là-bas. Et finalement, c'est une population qui s'est merveilleusement intégrée.
Vous n'écrivez pas seulement pour nous raconter des histoires, aussi un peu quand même pour faire le procès de l'État. Ça montait en puissance. Vous dites que ça a asséché la vitalité de la province. Asséché, c'est pas caricatural ?
Oui, alors... Il y a le contexte qui nous amène sur la problématique actuelle. Il y a toute l'histoire. Oui, je pense que la France est un pays très particulier. C'est pas un État fédéral. C'est pas comme l'Allemagne. C'est pas comme l'Espagne. On voit le sujet catalan sur le développement des forces centrifuges qui dilate un modèle de fonctionnement qui n'est plus accepté et qui n'était pas accepté. La France, elle s'est construite vraiment sur ses communes. Elle s'est vraiment construite sur ses villages. Et ce sont des additions d'histoires d'hommes et de femmes qui, au fond, ont structuré l'identité de notre pays autour de son enracinement. Et cet enracinement est aujourd'hui encore une réalité. Plus de la moitié des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Près de 40% des Français vivent dans des communes de moins de 2 500 habitants.
Est-ce que l'État assèche cette vitalité-là ?
Il l'a asséché. En tout cas, il a eu beaucoup de prétentions dans sa construction depuis deux siècles pour essayer de tout organiser, de tout maîtriser, de tout ordonner. Parce qu'il y a une logique un peu du haut, un peu élitiste. Et d'ailleurs, l'histoire nous raconte aussi que parfois, dans l'histoire, l'élite s'est sacrifiée au profit de sa population. Les bourgeois de Calais, c'est la dernière grande histoire où l'élite de la ville s'est sacrifiée presque physiquement, mais ils ont été épargnés à la fin, pour sauver leur population.
Vous racontez Jeanne d'Arc aussi, hein, le procès.
Le procès de Jeanne d'Arc est assez formidable dans les attendus, et les questions posées à Jeanne d'Arc par le procureur sur le thème « Es-tu en grâce, Jeanne ?» pour essayer de la sauver, pour essayer de comprendre. Et elle dit si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Tous ces éléments-là construisent notre pays, tous ces éléments disent notre organisation, et au fond, tous ces éléments-là n'ont pas véritablement changé. Tous les discours qui consistent à dire « il y a trop de communes, tout ça, ça coûte cher, etc. », c'est du bidon. Bon,
c'est la défense et l'illustration de la commune, ce bouquin. Vous auriez pu raconter l'ascension exceptionnelle d'un enfant d'Amiens, non ? Il n'y a, bon. A rien d'ailleurs sur Amiens. Il y a sur la Somme.
Il y a sur la Somme, il y a sur la Somme, oui, sur Amiens.
Où Emmanuel Macron a grandi, voilà, je
le rappelle. Oui, non, mais ça ne m'avait pas échappé. Et où d'ailleurs l'équipe de foot est montée en Ligue 1 en ayant battu Reims dans les dernières secondes, ce qui a fait trébucher Lens et nous a mis dans une situation de barragiste. Mais nous sommes aussi à 3 en Ligue 1.
Certains disent qu'Emmanuel Macron ne sent pas la France, qu'il n'a pas ce lien charnel avec la province. Vous approuvez cette...
Je ne me permettrai pas de dire ça. Il est président de la République, il n'est pas passé par toutes les cases auparavant. Il peut parfaitement maîtriser, comprendre notre pays. Dieu merci d'ailleurs, d'une certaine manière, sans avoir été maire. Cela étant, il y a une réalité structurelle où il a sûrement une vision centralisatrice, il a sûrement beaucoup d'ambition pour le pays, il a raison. Et je ne doute pas de sa volonté réformatrice qui est louable. Ce que je pense en revanche, c'est que sa construction personnelle, l'organisation du pouvoir actuel est très centralisateur. Or ça fait des années, je dirais même des décennies.
Mais ça, c'est lié à sa culture, c'est lié à sa méconnaissance de ce tissu de province que vous nous racontez là.
Je ne sais pas si c'est, il la connaît l'histoire, mais je ne sais pas si c'est Paris-Province. Ce que je sais, c'est que c'est une vision centralisatrice. Moi, j'ai été à Bercy. Bercy est composé d'hommes et de femmes remarquables. Emmanuel Macron en est issu, mais c'est une vision où l'État peut tout. Mais l'État ne peut plus tout. Il faut faire confiance, il faut décentraliser. Nous sommes dans une période où on recentralise beaucoup trop.
Un petit mot rapidement sur la Creuse. Un département que vous connaissez bien, c'est un département de cœur. Vous racontez d'ailleurs dans votre livre la révolte d'Agen, révolte populaire sanglante contre la République. L'entreprise GMES a suscité la désormais fameuse phrase du président sur « contre ceux qui foutent le bordel », entre guillemets, au lieu de chercher des postes. Il a tort ou il a raison ?
Je ne suis pas l'arbitre des élégances, on voit bien ce qu'il a voulu dire. Il a présenté des excuses sur l'emploi du mot. GMS, en tout cas, ce n'est pas la bonne cible. Moi, je les ai reçus comme président des maires de France, je les ai vus en Creuse. Bien sûr que ce sont des gens qui se battent, ils se battent aussi.
Il a tort d'évoquer ça. Alors, c'est un aparté, hein, il ne l'aurait pas fait publiquement.
La Creuse, c'est 120 000 habitants, la préfecture, elle a moins de 15 000 habitants, la souterraine, il y a un bassin d'emploi qui est très petit. Les gens, ils ont moins de 50 ans en moyenne, ils se battent pour leur emploi, c'est normal. Ils veulent encore des accompagnements pour les personnes dans le plan de retraite.
Donc, il n'y a pas à les traiter comme ça.
On peut pas dire de but en blanc, bon, bah, toi, au lieu de manifester, il faut que tu fasses la distance. Il faut connaître quand même, pour le coup, la Creuse. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises à portée de distance. J'ajoute qu'il y a des problèmes de formation et qu'il faut aider ces gens.
Il y a un an, vous étiez promis à devenir Premier ministre de Sarkozy, plus tard Premier ministre de Fillon. Puis, quand la droite rêvait d'une revanche aux législatives, Premier ministre de Macron, vous êtes tombé de haut ?
Non, pas du tout. Enfin, je suis tombé, ça c'est sûr, mais je ne suis pas tombé de haut, non.
Non.
C'est, ah non, mais
donc,
moi je suis un.
Vous impliquerez dans la présidentielle?
Je suis un profond républicain, un immense démocrate. On s'est battu de toutes nos forces pour faire vivre nos convictions. On a été battus, les Français ont choisi, la page est tournée, et ça, c'est la France d'avant.
Et le Parti Les Républicains, vous ne vous en mêlez plus?
Ah non, plus du tout. Je veux concentrer, j'ai démissionné du Sénat, je veux plus de responsabilité partisane, je veux parler de cette histoire de notre pays et défendre nos territoires.
Merci François Baroin d'avoir été avec nous ce matin.
Et bien justement, l'histoire.
On rappelle son livre d'ailleurs, oui. Hein, Michel Ben Michel, une histoire de France, pardon, par les villes et les villages.
L'histoire d'un pays dans sa géographie, nous dit François Baroin, tout vient du local, le dimanche, les jours chômés. La France est vraiment construite sur ses communes et comme l'État ne peut plus tout, il faut faire confiance et décentraliser. Merci infiniment à l'un et à l'autre. Le livre paraît chez Albin Michel.